Il y a un, qu'est-ce qu'on peut dire, une incompréhension. Il y a une erreur souvent pour les chrétiens et bien sûr pour les non-croyants aussi, qui pensent que le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère, un Dieu de jugement, et que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu de paix, d'amour, qui est là, qui est doux. Et bien sûr, Jésus-Christ est doux et humble de cœur. En Matthieu chapitre, est-ce que c'est chapitre 11, 28, 29, 30. Mais de savoir que notre Dieu est un Dieu qui est sérieux. Il amène le miséricorde parce qu'il est amour dans l'Ancien Testament. Et il amène le jugement parce qu'on va voir ça aussi dans le Nouveau Testament. Il est juste, il est saint, il est vrai. Son amour est, qu'est-ce qu'on peut dire, 100% amour, mais 100% juste, 100% saint. Et donc, lui, il va régner avec justice depuis le début de cette année. Je ne peux jamais arrêter de penser le règne de Christ sur la terre et le fait que nous sommes en train d'être préparés pour ça. Ce matin, je n'ai que de partager parce que c'est un sujet assez large, mais je vais cibler un peu. On va parler de le fait que Jésus-Christ, le fait que notre Dieu amène un épée nous. On a parlé de ça déjà un peu. On va parler un peu plus. Et l'épée nous, le Seigneur vient avec une épée. Si on voit les gens qui amènent une arme, une fusée, on voit les policiers. Quand on était à Baltimore pour l'année, on a vu des gardiens, ceux qui sont là pour nous protéger, qui travaillent dans la sécurité. Et donc, dans le campus de Baltimore, de l'église, bien sûr, il y a des gens en États-Unis qui apportent les armes. C'est un droit dans certains États d'apporter une arme, et on peut voir les gens qui apportent une arme. Donc, bien sûr, avec tout ça, dans une grande société, il y a certains qui sont, qu'est-ce qu'on peut dire, manque de sagesse, des fois, un peu des problèmes psychiques. Et il y a des gens qui utilisent des armes, et c'est une tristesse de voir ça, mais ce n'est pas le sujet. Mais le quelque chose que je voudrais dire, bien sûr, dans une église, il y a des gens qui protègent l'assemblée. Particulièrement le pasteur, Pasteur Charles, il y a des gens qui prennent soin de lui, les gardes de corps, on peut dire. Et chaque fois qu'on arrive devant l'église pour l'institut biblique, pour les sessions d'institut biblique, les cours, et aussi pour les cultes, on voit les gens qui apporte une arme, c'est le gardien. Donc, il est le responsable. Quelqu'un avec une arme est là pas pour la décoration, il est là pour utiliser s'il a le cas de faire ça, s'il faut faire ça. Et je voudrais amener, parce que moi, c'était un peu bizarre de voir les gens avec une arme comme ça, prêts à utiliser si la situation est sérieuse et dangereuse et veut protéger les gens. Mais savoir que Jésus-Christ est en train d'apporter une épée, nous, c'est pas pour les décorations. C'est là pour utiliser. Notre Dieu est pas un grand, quel est le mot, teddy bear, nounours? Nounours? Oui, il est pas un père de Noël. Il est pas là avec paix et, qu'est-ce qu'on peut dire, paix et joie et peace and love, paix et amour. Non. Notre Dieu est sérieux. Et nous, des fois, peut tomber dans cette erreur de penser un Dieu de grâce et un Dieu qui supporte tout. Mais il faut savoir que sur le monde, à ce moment, c'est un monde qui est loin de la pensée originelle de notre Dieu. Et il va retourner avec cette épée pour juger le monde. Et pour faire la justice, il faut qu'il tranche, il coupe. Il va le faire ça. Donc, la première chose on peut dire sur ce sujet de savoir l'importance d'avoir une sainte crainte pour le Seigneur et de savoir que devant Jéricho, en Josué 5, verset 13, nous avons Josué devant, après le peuple a déjà traversé le Jordan. Ça, c'est déjà un miracle. Mais de savoir de passer, comme dans un désert, la terre était sec, pas moins, c'était sec, de marcher et arriver à l'armée, tout Israël. Et maintenant, ils sont prêts pour attaquer Jéricho. Et Josué est en train de regarder les murs, les dimensions, l'épaisseur des murs, les nombres de soldats, les points forts de cette ville. Et en train de penser qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que se passe. En Josué 5, 13, un homme devant lui, waouh, il est là avec un épineux. Et il dit, est-ce que tu es pour nous ou est-ce que tu es pour eux? Et cet homme dit, non, je suis là pour commander l'armée parce que je suis le chef de l'armée de le Seigneur. Je suis là pour faire des affaires. Un épineux, il était là pour trancher, il était là pour faire le combat. Sachant que Jéricho était une ville déjà jugée. On peut dire, mais c'est les pauvres dans cette ville. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce qu'il y a des gens innocents? Les gens qui sont sans tâche? Non, il y a des gens qui sont des rebelles, qui sont contre Dieu, qui n'ont pas accepté. Si c'était possible que ceux qui peuvent repentir et accepter le Seigneur, ça devait déjà passer. C'est le délai le plus long possible. Notre Seigneur est patient. Il n'est pas impulsif. Quand c'est le moment de venir avec l'épée, c'est parce qu'il a exaucé toutes les autres possibilités. Il a puisé toutes les autres possibilités. Quand il arrive avec une épée, c'est vraiment la dernière chose qu'il doit faire. Il ne fait pas ça avec impulsion. Il fait ça parce qu'il faut le faire pour protéger le juste. Et donc, de savoir que quand Josué est là, il n'a aucune idée qu'est-ce qu'il faut faire, et c'est le chef de l'armée qui était Jésus-Christ préincarné avec cette épée qui va commander les soldats à dire ça c'est la stratégie qu'il faut utiliser. Il ne faut pas attaquer, il faut tourner, bien sûr, on sait l'histoire. Tourner, tourner, tourner jusqu'à le septième jour et bouf. Donc, Jésus-Christ va être le premier de couper. Il va être le premier devant les autres. Il a disparu, bien sûr. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Et sans Jésus-Christ, Josué, expérimenté soldat, avec beaucoup des années de conduire, d'être là devant Moïse. Et le peuple ne peut rien faire. Il faut que Dieu arrive et coupe. Et lui, il va trancher, il va couper. Donc, il était prêt pour le combat. La chose qui est encourageante dans cette application, si on voit ça, est notre Dieu est prêt. Il va venir avec une vitesse. Quand c'est le moment, il va venir. Dans ma vie, quand je pose la question, mais ce n'est pas juste, pourquoi que les choses passent dans ce monde? Pourquoi que le méchant grandit et prospère? Et le Seigneur dit, attends, attends pour ce moment. Je viens pour couper. Il faut savoir ça, que notre Dieu va prendre commande. Si on essaie de faire avec nos propres moyens, on ne peut rien faire et on va faire beaucoup plus pire parce qu'on va faire avec notre ancienne nature, bien sûr motivé par un sens de justice. Mais on peut voir dans ce monde que quand un peuple, et on ne parle pas souvent ici de l'Église, on parle en général, les gens motivés de faire des choses et dire, mais ce n'est pas juste la chose qu'il faut, on doit faire quelque chose. Et le Seigneur va dire, le plus que tu fais des choses, le plus compliqué le problème. Le plus qu'on essaie de faire des choses avec notre propre nature, notre sens de justice, notre idée avec les mêmes motivations, le plus on va mettre les couches de complications. Et le Seigneur doit enlever chaque couche de nouveau. Donc il faut retourner à point zéro pour recommencer. Et le Seigneur dit, ok Josué, je suis venu le bon moment. On va commencer maintenant. Et on va trancher. Et on va couper. Je suis le Dieu. En fait, Josué, je suis le Dieu qui est là, maintenant. Je suis le Dieu qui prend charge maintenant. C'est pas à toi de gérer, c'est moi qui va gérer, c'est moi qui va couper. Je vais être le premier devant tous les autres. Quelque chose que j'ai vu, je vois de temps en temps les films de guerre. Et les films de guerre, nous avons les héros, les gens qui sont inspirants, qui sont devant. Le leader dans ces choses sont la personne la première. Il va aller devant tous les autres soldats. C'est lui qui va tirer les attaques de l'ennemi. Et notre Dieu est le premier. Quand c'est le moment de charge, pour le charge, pour attaquer, c'est lui qui prend le point. On dit en anglais, he takes point. Ça veut dire, il est le premier. Il va être là, il va être attaqué. Et lui, il a le courage et personne ne va arrêter notre Dieu. Notre Dieu vient de prendre charge dans nos situations. Notre Dieu va être avec nous quand on va visiter la vallée pour commencer une œuvre. Par la grâce, par le Seigneur, bien sûr, à Sion, avec notre cœur. Le Seigneur va être déjà là avec ses pieds sur place en la terre valaisan. Il va être là pour couper les ennemis. Savoir, c'était pas dit qu'il y a des démons qui habitent et demeurent dans les places hautes. Il y a des démons dans Cana, à Jéricho, qui dominent. Et c'est Dieu qui doit couper. C'est pas pour nous, on peut dire c'est un peu bizarre, mais on va dire ça, et c'est pas une contradiction. C'est pas de dire il n'y a pas des ennemis physiques, mais c'est pour dire le vrai ennemi. Et ceux qui ne sont pas le chair et le sang, c'est les démons, c'est le diable, c'est Satan, c'est son royaume de ténèbres. On a parlé de le royaume de ténèbres le dimanche passé. Notre bataille est contre eux. Bien sûr, le diable utilise des hommes et des femmes, bien sûr, pour enfoncer, pour être séduit, pour être conduit. Mais première chose, sachant notre Dieu est là. Il n'est pas distant. Il est sur un trône, oui, mais c'est le moment qu'il descend, il va descendre. Il va être avec nous. Notre Dieu prend sa place dans cette église. La meilleure place, la première place. Et lui, il est prêt pour trancher. Pas contre nous. Le prochain point. Romains chapitre 13, verset 4. Le magistrat est un serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il apporte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Romains 13, 14. Sur la terre, nous avons des autorités, on n'est pas dans le chaos. Il est toujours dans tous les états, dans toutes les époques, il faut avoir un leader, il faut avoir des gouvernements, il faut avoir des autorités. Nous sommes dans une époque qu'on est de moins en moins, on supporte les autorités. Mais sachons que si nous sommes là sur la terre, il faut avoir une autorité. Dans une organisation, il est toujours une personne ou quelques personnes qui suit, qui prend contrôle, qui dirige. Avec le, bien sûr, avec le d'accord, accordance de le groupe. C'est le cas. L'Église avec notre Dieu, avec le pasteur, avec les anciens, qui sont les serviteurs, bien sûr, pas les dictateurs. On est dans la Suisse, nous avons 7 qui conduisent ce pays. En France, on est 1. Avec un groupe. En Angleterre, le premier ministre aussi. Avec le reine qui est le responsable symbolique de pouvoir. Mais de savoir que Dieu permet les autorités pour protéger le peuple, s'il n'y a pas un leader pour conduire, c'est le chaos. La fin du livre de Juges parle de « il n'était pas un roi en Israël et tout le monde choisit de faire ce qu'il veut. Donc c'est OK pour moi de tuer mon voisin, ma voisine, parce que je sens que je suis correct. J'ai le droit de faire ça. Et lui, il peut faire la même chose. » Quel système on peut vivre si c'est ça? Et de savoir que le Seigneur ordonne les autorités de conduire avec une épée. Et l'épée tranche, l'épée coupe. Ça veut dire que nous avons des sentences. Si on fait 70 ou 80 kilomètres d'heure dans une voiture, dans cette route ici, il y a des conséquences. Et bien sûr, la police doit être exigée, tranchée, pour éviter ça. Donc, il est partout, nous avons une mesure des limites parce que nous avons besoin d'être limités. On a besoin d'être soumis. Wow, un mot soumission. C'est un mot mal, les gens disent ça, mais c'est soumission. Soumission sur le quoi? Devant Dieu. Soumission du gouvernement aussi. Et Dieu est là pour dire, écoute, je ne peux pas vous laisser de faire comme vous voulez. Vous êtes pécheur avec une ancienne nature. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois limiter, je dois amener des autorités. Et on doit être soumis aux autorités. Quelqu'un peut être en train de penser et dire, mais si les autorités sont contre Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Au bon moment, il faut dire, je dois choisir de suivre Dieu et pas les autorités quand les autorités sont autour. Je dis ça, mais de savoir si c'est pas le cas, c'est pas une excuse pour nous d'être désobéissance. On doit soumettre les autorités. On doit payer nos factures. Nous avons un fiduciaire ici, donc il sait très bien qu'est-ce qu'on fait avec les impôts. Nous avons des gens qui travaillent, qui sont sous les autorités. Les gens dans les hôpitaux, les gens qui sont certains dans la police, certains qui sont des médecins. On est tous sous un système. Des fois, le système est contrôlé par le diable, mais le système, il était là par Dieu pour conduire afin que nous ne sommes pas dans le chaos. Et donc, il faut accepter des fois que si la police ou on a reçu une facture des impôts, il faut accepter des fois. OK, j'ai fait tour. C'était une erreur. De ma part, je n'ai pas payé mes impôts. Donc, il faut accepter certaines choses. Le fin de temps, Matthieu 24, 2 Timothée chapitre 3, les gens ne vont pas supporter d'accepter d'être sur un système. C'est la raison pour on voit dans beaucoup de pays que les gens sont rebelles. On peut dire, waouh, c'est pas la grâce, pasteur, pourquoi que tu parles de ça? Parce que notre Dieu parle d'un système d'ordre. Il est un Dieu d'ordre. Et le premier exemple est nous. Nous, l'Église de Dieu, on va être ceux qui sont exemplaires pour la population, parce qu'on vit devant notre Dieu avec une crainte. Est-ce que c'est 1 Pierre chapitre 3? Honore le roi, crains Dieu, aime les frères, aime tout le monde. Ça, c'est pour nous. Romains chapitre 13, on a déjà cité que nous sommes soumis sous les autorités. Donc, c'est bien d'être soumis sous les autorités parce qu'on honore Dieu, parce qu'on fait ça avec nos cœurs. On n'est pas fait ça avec un sens de « oh, il faut que je fasse ça ». Non, on a un respect, une crainte pour Dieu et on honore les autorités. Donc, bien sûr, les autorités doivent trancher. Ils sont là avec une épée. Ils apportent l'épée pour une raison. De savoir, nous sommes là et on est honorés. Et on n'a pas besoin d'avoir une peur dans une société qui est juste. Les autorités vont faire des choses et on va honorer les autorités, on va prier pour les autorités. Bien sûr, il y a qu'est-ce qu'on dit? On a un rappel, on a le droit de dire, écoute, cette personne dans ce gouvernement a fait quelque chose de mal contre le peuple de Dieu, contre notre Dieu. On prie pour eux et Dieu, c'est Dieu qui va enlever quand c'est le moment. Il a fait avec Nebuchadnezzar, il a fait avec Belteshazzar. Donc, sachant, si quelqu'un est contre Dieu, c'est juste une question de temps avant Dieu va enlever cette personne et remplacer avec quelqu'un d'autre. Donc, redevabilité d'être responsable devant Dieu. Tous les leaders sont redevables aussi. C'est pas juste nous. Deuxième point, on a parlé de ça. Troisième point. Ça va? Pour vous tous, c'est bien? Au Zoom aussi? Wow. OK. Matthieu chapitre 13, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. Jésus, les paroles de la lèvre de la bouche de Jésus-Christ. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Matthieu 10, verset 34. Il va dire quelque chose. Que c'est Michée chapitre 7, il est en train de citer. Il est dit que les ennemis vont être ceux qui sont de propre maison, sa famille. Il parle de le fait que, et on peut tourner cette pour le mal, on peut détourner le vrai sens de ça. On est dans un monde avec deux royaumes. Je vais dire quelque chose. On doit honorer nos pères, notre mère, nos frères, sœurs, nos enfants, nos cousins, nos neveux. Oui. Dieu demande qu'on peut aimer avec l'amour de Dieu et on peut respecter la famille. Mais sachons quelque chose de très important. On est dans un monde avec deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de ténèbres. Et chacun doit choisir. Et on était dans notre passé dans le royaume de ténèbres. Il faut savoir ce point. Quand nous vivons avec nos familles, avec nos amis, aussi avec nos relations, avec nos voisins, avec ceux qu'on travaille, les collègues, qu'il est deux royaumes. Il faut trancher pour un. Et Dieu, Jésus-Christ, dans Luc chapitre 2, est en train de dire, en fait, c'est pas lui, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit Simeon de dire, que Jésus-Christ, cet enfant, va être là pour révéler les intentions, les pensées du cœur de chacun. Ça veut dire que quand on vient avec Jésus-Christ, il y a des gens proches de nous, que nous avons une bonne amitié, qui va dire non, non, non. On a une dispute avec quelqu'un dans la famille, c'est normal. Parce que des fois, à Noël, bien sûr, on est là, on veut prier, on veut avoir la communion. Et on est autour d'une table avec les gens qui ne croient pas la même chose. Et pour eux, voilà, c'est insupportable. Quand on dit le nom de Jésus-Christ et dit qu'il est le seul moyen pour aller au ciel, et ceux qui n'acceptent pas, c'est l'enfer pour l'éternité. Et donc, on a un cœur pour prier pour eux. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas faire des compromis. Et Dieu révèle les cœurs. Cette semaine, quelqu'un qui a visité un practitioner généraliste qui a révélé son cœur aussi. Non, vous êtes judo-chrétien, voilà, c'est un autre, vous acceptez la punition de souffrance. Quoi? C'était un généraliste de Genève. On voit que Dieu révèle les cœurs. Est-ce qu'on aime les personnes? Oui. Mais est-ce qu'on va accepter de supporter ça? Non. On va dire avec respect. Avec respect, nous avons Dieu et on craint pour ce Dieu. On ne peut pas marcher. Amos chapitre 3:3. Amos 3:3. Comment deux peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Ça veut dire, si quelqu'un n'accepte pas de marcher avec Dieu. Et on parle des chrétiens charnels aussi. Dieu a tranché. On ne peut pas avoir beaucoup de choses avec eux. Est-ce qu'on peut passer le temps avec eux? Je vais lancer quelque chose. J'aime ma mère beaucoup. J'aime mon père. Il est décédé. Mais j'aime mon père beaucoup. ils sont pas croyants. Ça veut dire que je peux passer le temps avec eux. Je peux honorer. Mais je dis, écoute, si vous acceptez pas, c'est enfer. C'est la réalité avec Dieu. On va être tous devant lui. Est-ce que c'est un moment de silence? Oui. De parler et pas parler des fois. Est-ce qu'on doit fermer nos bouches? Oui. On va accepter d'être sage. On va dire, OK, on va prier pour eux et on va aimer, mais on va pas avoir beaucoup de contact. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui croit pas? Honnêtement, on prie pour eux qui peuvent être sauvés. On passe des moments, on mange avec eux. On aime nos familles. On a un respect pour on dit, écoute, je suis sur l'autorité de notre Dieu. Ma vie est avec lui. Luc parle de cette fameuse histoire, c'est pas une parabole. Cette fameuse histoire de Lazare et l'homme riche. Et l'homme riche a supplié Moïse, Abraham. Il a dit, Abraham, père Abraham, envoie Lazare pour toucher mes livres avec le lot. Et qu'est-ce que c'est Abraham a répondu? Il est un grand séparation entre moi et toi, et personne peut passer. Cette séparation est là entre les cœurs maintenant. Et nous ne pouvons pas passer d'être avec eux et ils ne peuvent pas passer d'être avec nous. C'est une réalité. Est-ce qu'on peut faire des choses avec eux, mais on ne peut pas passer cette chasme, cet abîme? Cette séparation, c'est notre Dieu qui a dit « je vais trancher ». Il n'amène pas le pays parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le pays, qui n'ont pas une vision pour Dieu, qui ne peuvent pas accepter Jésus-Christ. Et sachant, on va parler de lui cette année. Il va être le genre qui va être en colère contre nous parce qu'on dit ça. Jésus-Christ amène une épée pour couper. On ne peut pas avoir un joug étrange. On doit marcher avec le Seigneur. Et ça veut dire qu'il va être une séparation. Mais en même temps, c'est une grâce aussi parce qu'on doit marcher avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une séparation avec les autres. Aime les gens. Oui, aime les gens. Passe le temps avec eux. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas partager ensemble, c'est ici, notre relation avec notre Dieu. C'est tellement simple, c'est rude, c'est ouf, c'est trop, mais de savoir, on est dans deux royaumes différents et on doit vivre devant Dieu. Savons, c'est une dernière chose avant que je finisse ce point. On est les meilleurs fils, les meilleurs femme, le meilleur mari, le meilleur père, la meilleure mère, le meilleur époux ou épouse, le meilleur membre de famille, le meilleur chef d'une équipe, le meilleur, comme vous voulez, qu'on suit Dieu. Parce qu'on a même un témoignage impeccable. On a même le fait qu'on marche et on pense la même chose. Ce n'est pas l'hypocrisie. Et de savoir une chose, si on veut que nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères sont sauvés, la meilleure chose pour nous est marcher avec le Seigneur. On ne peut pas être dans la place de Dieu. Il faut laisser la place de Dieu de travailler. Et de savoir, est-ce que notre Dieu aime ma mère plus que moi? Oui. Est-ce qu'il veut qu'elle est sauvée plus que moi? Oui. Est-ce qu'il est Dieu, il est beaucoup plus capable que moi? Oui. Il va trancher, il va séparer, mais il va attirer. Laissons Dieu faire son œuvre, acceptons la séparation qui est une réalité, et aimer les gens, et être honoré les gens maintenant. Maintenant, aimez cette année, acceptons cette séparation, acceptons que les gens ne vont pas être en contact avec nous. C'est partie de notre souffrance et persécution d'apporter la croix de Jésus-Christ. Prochain point. Et on ne va pas être trop long, ne quitte pas. Le prochain point, Apocalypse chapitre 2, verset 12. L'église de Pergamos. c'est le troisième ou quatrième église dans les sept églises en Apocalypse 2 et 3. Nous avons ici l'église de Pergamon, pardon. Et ça veut dire que Jésus présente lui-même, sa présentation est le oui avec l'épée qui sort de la bouche. Et nous avons en chapitre 2, versets 15 et 16, un reproche contre cette église, qu'ils ont fait les compromis avec le secte nicolaïdien et ceux qui suivent la doctrine de Balaam. Et ça veut dire qu'il accepte d'être plus comme le monde. Il accepte ceux qui endoctrinent et mènent un poison dans l'église. Il dit, écoute, j'ai une chose contre vous, repentir avant c'est trop tard. Parce que quand c'est trop tard, je vais venir avec mon épée pour lutter et combattre contre ces sectes, contre ceux qui sont là avec une fausse doctrine. Notre Dieu va châtier une église qui est compromise. Bien sûr, il va tuer certains gens. C'était déjà passé en Actes chapitre 5. C'est déjà passé avec certaines églises que les gens font comme ça. Dieu doit régler les affaires dans son église. Donc, pour nous, c'est de savoir que si on est dans le point avec la doctrine, si on est, qu'est-ce qu'on peut dire? Si nous sommes comme un lion pour défendre notre foi contre ceux qui amènent des fausses doctrines, on doit le faire. Parce que notre Dieu a dit, écoute, mon église va être sainte, mon église va être sans reproche, mon église va être préparée d'être l'épouse de Christ. Et donc, on est en train d'être préparé. Ça veut dire qu'on ne peut pas supporter les fausses doctrines, on ne peut pas supporter des hérésies, on ne peut pas supporter ceux qui amènent ça. Parce que si on supporte ça, et nous avons un flag drapeau de l'arc du ciel d'or et on accepte tous les gens comme ça. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va couper, on ne va avoir plus un témoignage, on ne va pas être plus une église. On va être quelque chose d'autre, mais on ne va pas être l'église de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on doit être direct dans la grâce avec amour, mais on ne va pas accepter les compromis. Et je vous demande à vous, chacun de vous, si je sors de la doctrine de cette église, de ce ministère, de la Bible. Si je commence à prêcher l'autre chose, il faut que tu parles avec moi. Je suis redevable devant mon Dieu. Je suis redevable devant vous. Si je prêche quelque chose d'autre, de la grâce de Dieu et l'œuvre de compris, si je commence à prêcher qu'on n'a pas besoin d'aller évangéliser, si je presse de pas faire certaines choses, il faut que vous viennes avec moi et dites, écoute, pasteur, vous êtes tort. Il faut avec amour, bien sûr, en privé, bien sûr. Mais je vous avertis que les églises commencent dans une autre direction. Vous saviez, c'est un petit ajustement, comme ça. On est dans cette direction, on marche, mais un petit ajustement dans cette direction. Oui, on n'a pas besoin d'évangéliser, ok? Oui, maintenant, on n'a pas besoin de lire la Bible. Oui, le monde, c'est bon, on peut faire des choses. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne dans l'autre direction. On ne peut pas faire ça. Il y a des églises qui font ça. Je vous dis des églises qui font ça. On est en colère contre ça parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui veut gagner les âmes. C'est quelque chose qui va en fait tourner dans une autre direction. Une église qui n'est plus une église. Donc voilà, juste pour savoir, il est une épée et Jésus-Christ va châtier. Il va discipliner son église. Donc, on doit être responsable. Et la dernière chose, vous pouvez dire, « Wow, ce matin, le pasteur fait ça, il faut que je mange, il faut aller. » Et si vous sautez pas tout de suite, en même temps, ne quittez pas. « Wow, qu'est-ce qu'il a mangé ce matin? Est-ce qu'il a mangé le bœuf? » Apocalypse, chapitre 19, et je vais dire ça. Quand Jésus retourne à la terre, il va retourner avec une épée pour juger. Il va tuer les armées de l'Antichrist. Il va régler les affaires sur la terre. Ça va être une terre purifiée et prête pour le retour de Christ. Il va retourner. Je ne vais pas entrer dans le détail de ça parce que nous avons des enfants dans la salle ce matin. Mais de savoir que quand Jésus-Christ retourne à la terre, la vie que les gens vivent ce moment ne va jamais être la même. Certains vont être plus là parce qu'un royaume qui demande la perfection, un peuple qui ne sont pas parfaits, qui n'acceptent pas Jésus-Christ, il n'est pas en place pour eux sur la terre. Je vais laisser de conclure la pensée de ça. Ça veut dire quelqu'un qui est bâti sur le sable. Quand le vent vient, quand le tourbillon vient, ils sont plus là. Jésus-Christ va retourner dans un moment. Deux fois, première fois pour son Église, enlèvement. 7 ans après, il va retourner pour prendre son royaume. Ça, c'est la deuxième venue de Christ. L'ennemi, l'antéchrist avec toutes ses armes, il va être devant pour opposer un mot. Sa épée coupe tout le monde. Fini. C'est la raison qu'on est sérieux. Parce qu'un jour, ça va passer. Il faut qu'on communique cette chose. Il faut savoir aussi qu'on va être avec lui. Ça veut dire, je ne sais pas si nous avec des épées aussi, mais je pense qu'on va être là de voir qu'est-ce qui va passer. Savoir que notre Dieu est sérieux, il aime les gens, c'est un moment de grâce, c'est l'année de la grâce, c'est le moment d'accepter Jésus-Christ, c'est la raison qu'on évangélise, parce qu'on veut que les gens acceptent lui avant c'est trop tard, c'est la raison que je prêche avec passion. La raison que je suis là en Suisse, parce que Dieu m'a appelé de rester ici, d'aider mon Église, et je suis privilégié de faire ça. Je suis privilégié d'utiliser la parole de Dieu et prêcher le plein conseil de Dieu. Je suis privilégié de prêcher sans compromis. Je suis privilégié d'accepter qu'il va être les conséquences pour ça. Mais je veux qu'on vive devant Dieu et on veut qu'on puisse être formé et préparé pour son royaume quand il vient. Pour le moment, il y a une confusion sur la terre, mais le jour où il retourne, wow, pas de confusion. La décision de chacun de ses cœurs va être définie. Il va comprendre exactement qu'est-ce qu'ils ont choisi. Ceux qui ont pris la marque de la bête, c'est la fin. Notre Dieu est un Dieu avec une épée. Il faut être sérieux avec lui. Avec grâce, oui, il est un Dieu de joie, on peut rigoler, on peut faire des choses ensemble. Mais si ça c'est juste la fondation de notre Église de faire des choses sociales, je pose la question, est-ce qu'on est une Église? Est-ce qu'on veut entrer plus avec lui, d'être sérieux? Dans le passé, on a dormi, on a rigolé, on a fait des choses, avant on était sauvés. C'est, on a fait des bêtises. Le temps a passé. Notre salut approche. Ça veut dire l'enlèvement, le moment que Dieu va nous chercher. Le nuit est passé. Maintenant, le jour approche. Et on doit être préparé pour ça. Il y a une bénédiction pour nous quand on regarde vers lui. Il y a une bénédiction pour nous quand on embrasse la parole de Dieu et on nous dit que c'est important. On va vivre une vie inimaginable, sans pleurs, sans la douleur, sans l'âge physique, sans notre corps en train d'affaiblir, sans l'injustice sur la terre, sans la fatigue de pensée, sans les complications de ce monde. On va vivre dans sa présence, dans un corps glorifié. Je veux ça pour ma vie. Je suis prêt s'il vient maintenant. J'espère que ma femme peut être à côté de moi et qu'on peut être enlevé ensemble. Je veux être prêt quand il retourne. Et je veux que mon Église est prête aussi. Et comme nous avons fait, Marie-Pierre et Priscilla parlaient, c'est l'évangélisation est beaucoup plus importante parce que les gens qui vont aller en enfer, on ne veut pas les gens faire ça. On veut avertir les gens. Quand c'était Noé qui a dit, voilà 600 ans, le déluge va venir dans 100 ans, il a supplié les gens. C'est une année, C'est la grâce. Dieu est patient. Il veut que tout le monde est sauvé. Il invite les gens avec les âmes, les bras ouverts. On est un peuple serré pour Dieu. Je vous encourage de réaliser un Dieu avec un mot et un Dieu qui tranche avec l'épée aussi. Il doit le faire. Si pas, il n'est pas Dieu. Il n'est pas notre Dieu. Donc, un peuple pour le Seigneur, préparé pour le Seigneur. Aime les autres. Prie pour les autres, que les autres puissent être sauvés. Respecte les autorités et respecte-les. Nos familles, nos amis, mais prie pour eux, pour le salut. L'épée du Seigneur, l'épée du Seigneur, il va trancher un jour. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, merci pour ce temps et merci pour la patience d'écouter. Merci pour ta parole qui coupe et coupe nos cœurs, sépare l'âme et l'esprit. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui est sérieux et tu aimes ton peuple et tu n'aimes pas que si on est éloigné et on est occupé avec des autres choses et pas avec toi. Seigneur, viens et règne dans nos vies. Conduis-nous cette semaine. Peut-être c'est la dernière semaine, on ne sait pas. Peut-être tu viens pour nous chercher. Je veux qu'on puisse vivre avec toi Seigneur pour expérimenter ça. Je demande que tu touches les gens qui sont malades, qui sont malades à ce moment peut-être, qui sont affaiblis avec une maladie, les gens qui travaillent beaucoup à ce moment, qui sont fatigués aussi, les gens qui ont un manque de vision, les gens qui souffrent dans ces mariages, dans ces relations, dans le travail. Je pense à ceux qui sont loin de nous à ce moment, touche-les, s'il te plaît, encourage-les. Et je demande que tu bénisses maintenant, notre après-midi, notre repas, notre repos. Et juste merci Seigneur, sois glorifié. Amen.